Radio Okapi. À la présentation du journal, Lievin Mbuinga.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Au sommaire de cette édition, tentative d'évasion à la prison de Makala, la guerre des chiffres est déclenchée. Pour certains Congolais, le nombre de 129 victimes annoncées par le gouvernement est inexact. Ils estiment que les chiffres seraient au-delà de ceux rendus publics par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Lutte contre la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, l'ambassadeur de l'Union européenne accrédité au Congo propose un remède. La solution doit venir d'abord du peuple congolais lui-même et de ses dirigeants, explique Nicolas Berlanga Martinez en séjour à Goma. Territoire de la rébellion des ADF vers d'autres territoires dans la région de Beni. Parmi les défis rencontrés par la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO Nord Kivu, c'est le commandant de cette force, le général Alfred Matambo, arrivé fin mandat, qui l'explique. Il est l'invité de Radio Okapi. Affaire tentative d'évasion à la prison de Makala avec ses chiffres qui divisent. Le bilan fourni par les autorités très lourd, 129 morts, des femmes violées et d'importants dégâts matériels. Si certaines sources le qualifient de bilan provisoire, d'autres contestent carrément ces chiffres communiqués par le gouvernement. Selon elles, le nombre de personnes tuées serait au-delà de celui rendu public par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, que je vous prie de suivre dans cet extrait sélectionné par Grace Hamzati.
Ce lundi 2 septembre 2024, aux alentours de 2 heures du matin, une tentative d'évasion massive à la prison centrale de Makala a débouché sur des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Informé de cette situation, j'ai, sur instruction de la haute hiérarchie, convoqué une réunion de crise avec les responsables des services de défense et de sécurité. Le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts, dont 24 par balle, après sommation, les autres par bousculade, étouffement et quelques femmes violées. La commission a également identifié 59 blessés, actuellement pris en charge par le gouvernement pour des soins appropriés. Sur le plan matériel, on déplore l'incendie des bâtiments administratifs, du greffe, de l'infirmerie et des dépôts de vivres. Le gouvernement se réjouit du calme retrouvé, déplore ces incidents malheureux et présente ses condoléances les plus attristées aux familles et proches des victimes. Les enquêtes se poursuivent et l'opinion sera informée de la suite.
L'heure est toujours aux réactions après ce bilan très lourd de morts enregistrés à la prison de Makala. Nous commençons par ce cri de colère des défenseurs des droits de l'homme. Des morts de trop à la prison centrale de Makala, lancent-ils. Ils exigent une enquête mixte et réellement indépendante sur ce qui s'est réellement passé. Acteurs politiques et défenseurs des droits humains dénoncent les tueries et viols tout en confirmant qu'il y a eu bel et bien évasion, d'après eux, de plusieurs détenus. Jeff Ngoy pour plus de détails.
La voix de Sans Voix pour les droits de l'homme rappelle aux autorités congolaises qu'aucun motif ne saurait justifier les violations des droits humains, dont les droits intangibles, en l'occurrence le droit à la vie. Pareille dénonciation de l'ONGDH Rescue DRC de Maître William Wenga.
Dans une prison, on arrive à tuer plus de 200 personnes. Et quand un vice-ministre de la justice, au lieu de documenter d'abord les faits, lui parle des 2 personnes qui ont été tuées, nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, ça nous a beaucoup tiqué.
Le MDVC, opposition républicaine d'Augustin Bissimwa, s'est dit consterné par le carnage de plus après celui de Wazalendo tué à Goma.
J'ai été contacté par certains prisonniers qui sont là. Depuis ces carnages, ils n'ont pas d'accès aux visites, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas manger, ils n'ont pas de courant, ils n'ont pas de l'eau. C'est des situations en tout cas extrêmement graves qui violent les droits de l'homme.
Le coordonnateur de la chaire congolaise des droits de l'homme, Maître Eloi Mobilensam.
Il faut une politique pénale, une politique carcérale. Il ne suffit pas seulement de désengorger les prisons. Faudra-t-il adopter une législation qui puisse humaniser nos milieux carcéraux se sont transformés à des mouroirs.
Il est important que les responsabilités en soient établies, publie la VSV.
Autre réaction, c'est celle de la nouvelle société civile congolaise, réseau des défenseurs des droits humains et de lutte contre la corruption. Elle exige non seulement l'ouverture d'une enquête réellement indépendante, mais aussi l'interpellation d'un certain nombre de responsables, tant politiques que sécuritaires. Suivez Jonas Tchombela, coordonnateur national de la nouvelle société civile congolaise, dans cet extrait proposé par Guy Maté.
La nouvelle société civile congolaise et les réseaux de défenseurs des droits humains et de lutte contre la corruption suggèrent, tout à fait ce centre, l'ouverture d'une enquête indépendante avec la présence active des défenseurs des droits humains et que toute la lumière soit faite ainsi que l'établissement des responsabilités. L'interpellation du directeur de la prison, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, ainsi que le responsable des services de renseignement, tant civil que militaire. Enfin, que tous les responsables de ce carnage et auteurs de cette évasion d'une rare cruauté soient déférés devant la justice.
Et pour mieux comprendre la situation de la prison centrale de Makala ainsi que la question de la politique carcérale pour améliorer les conditions pénitentiaires et la gestion des prisons congolaises, Radio Okapi a approché un ancien prisonnier de Makala qui avait été arrêté et condamné à la suite d'une bagarre avec son co-débatteur au cours d'une émission politique sur un plateau de télévision. Il s'agit de Gabriel Mokia. Il indique que les conditions sont catastrophiques à la prison centrale de Makala alors que les autorités font de bruit pour rien. Suivez le témoignage de Gabriel Mokia. Il a été joint par Jeff Ngoy.
Ces gens viennent, ils se limitent que là, dehors, en train de sionner, mais pas entrer à l'intérieur, voir comment il y a les conditions des prisonniers. Donc, je regrette, je savais que des choses pareilles allaient se produire, puisque j'avais vu les jeunes, les gens là souffrent. Il n'y a pas de lit, il n'y a rien. Même pour manger, c'est un peu difficile. Donc, les conditions à l'intérieur, c'est catastrophique. On vient avec les haricots mal préparés, on donne aux gens quelques haricots seulement, c'est tout. Oui. J'ai vu les images, je me suis souvenu. Là, j'étais là, les gens étaient toujours par terre. C'est ça, les spécificités des Congolais. Fait dormir les autres par terre. Là, c'est bon pour eux. De ces autorités qui parlent, là, ils racontent que des mensonges. Il n'y a pas de vérité dans ce que les gens disent. À moins qu'il y ait complicité, parce qu'il y a plein de services là-bas. Il y a l'ANER, il y a DEMIAP, il y a la police, il y a les militaires et tout ça. Ils sont là. Mais comment de telles choses peuvent se produire?
La solution à la crise sécuritaire actuelle dans l'est de la RDC doit venir tout d'abord du peuple congolais et de ses dirigeants. Ces propos sont de l'ambassadeur de l'Union européenne accrédité au Congo, Nicolas Berlanga Martinez, en séjour à Goma, a été reçu hier mardi par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami. Il assure que la RDC peut toujours compter sur l'Union européenne pour tout appui nécessaire. Nicolas Martinez, dans ses propos recueillis par la presse du gouvernorat.
Ce n'est pas l'Union européenne qui a la clé de la solution du conflit. La clé est dans les mains de vous, Congolais, des autorités congolaises, et évidemment au niveau régional, d'autres autorités. L'Union européenne a été toujours derrière tous les efforts de paix. Et l'Union européenne actuellement investit plus de 100 millions d'euros chaque année dans la province de Nord Kivu pour aider la population, les déplacés et d'autres. Mais ça ne suffit pas. L'ampleur du problème dépasse aussi l'assistance européenne. On peut comprendre qu'il y a un certain sentiment d'impuissance émergé à cause de la durée de ces conflits, des difficultés. Mais certainement, vous pourrez compter sur l'engagement de l'Union européenne, comme on l'a fait depuis plusieurs décennies. Mais de nouveau, je voudrais réitérer, la solution est dans vos mains, dans les mains de vos autorités, dans les mains des discussions en cours sur la médiation africaine. Ne demandez pas un protagonisme à l'Union européenne qu'en 2024, il ne peut pas avoir. Et l'Union européenne est un partenaire de longue date qui souhaite continuer à travailler avec vous, mais c'est vous qui le leadership de ce qui se passe dans votre pays.
L'ambassadeur Nicolas Berlanda Martinez est à sa cinquième visite officielle à Goma depuis sa prise de fonction le 20 avril 2023. Restons au Nord Kivu où des tirs d'armes lourdes et légères ont été entendus en milieu de journée d'hier mardi dans les environs de Kibirizi, c'est dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. Selon certaines sources locales, il s'agirait d'un affrontement qui a opposé les éléments VDP Wazalendo aux rebelles du M23. Ces tirs commençaient autour de 11h ont cessé vers 13h heure locale, précise des témoins. Au moins deux civils auraient été blessés, ajoute-t-elle. Dans le territoire de Beni, Nord Kivu toujours, certaines femmes enlevées par les EDF subissent des sévices corporels, notamment l'exploitation sexuelle dans les maquis où elles sont retenues par ces rebelles. Après leur libération par les armées congolaises FRDC et ougandaises UDPF, ces femmes reviennent avec des traumatismes profonds, des grossesses non désirées et même avec des enfants. Ces survivantes, souvent réintégrées dans la communauté sans accompagnement psychosocial adéquat, font face à de nombreux défis. Martial Papi-Moukeba nous en dit plus.
Les mois derniers, une vingtaine de femmes enlevées à Beni par des ADF depuis plusieurs années ont été libérées par les FRDC et l'UPDF. Leur libération permet de mettre en lumière les souffrances inimaginables subies par ces femmes, notamment l'exploitation sexuelle par les commandants des ADF, comme le révèle le colonel Mac Azukai, porte-parole des opérations Sokola 1.
Parmi les femmes que nous libérons, nombreuses sont celles qui ont subi des violences sexuelles. Certaines nous reviennent avec des grossesses non désirées. D'autres avec des enfants. Le mois dernier, par exemple, l'une a raconté avoir été forcée de devenir l'épouse d'un des commandants rebelles.
Ces femmes libérées, souvent en état de choc, nécessitent un soutien psychologique et une réinsertion sociale, souligne Isabelle Pendeza, la coordonnatrice du collectif des associations féminines pour le développement au Nord Kivu.
Ces femmes ont vécu ce qui n'est pas facile à écouter, mais il est crucial de leur offrir un accompagnement psychosocial et adéquat pour les aider à se reconstruire et à retrouver leur place dans la société.
Malgré leur traumatisme, ces femmes font face à un autre défi, celui de réinventer leur avenir. Beni, Martial Papi-Moukeba, Radio Okapi.
Nord Kivu, sur un tout autre chapitre dans notre série, il n'y a pas de saut métier. Dans la ville de Beni, de nombreux jeunes désœuvrés arrivent à s'en sortir par de petits boulots. C'est le cas des laveurs d'engins roulants, motos, camions, véhicules. Pour certains, c'est faute de mieux. Pour d'autres, tout fait nombre et c'est un métier comme un autre qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Ils invitent d'autres jeunes à suivre leur exemple, ce qui, selon eux, les mettrait à l'abri des antivaleurs, notamment le vagabondage ou la criminalité. Marc Marofimbo pour le reportage.
Nous sommes au quartier Malepe, au site de lavage de Moulassa. Il est 17h local, mais plus de 30 véhicules sont encore au lavage. Asselm Kassomere, laveur, dit avoir embrassé ce métier faute de moyens pour poursuivre des études universitaires après avoir obtenu son diplôme d'État. Il affirme que laveur d'engins roulants est un métier qui permet de gagner sa vie.
Par manque de boulot, j'ai fait le beau choix d'aller au lavage car il n'y a pas un autre travail où on peut m'engager à parler lavage. Il n'y a pas de saut métier, mais il y a des sauts déjà. Mais moi, de ma part, je ne peux négliger le lavage. Car je les considère comme ma mère et mon père en fait.
Alexis Moutsopi, le gérant de ce site de lavage, parle de sa vie au quotidien avec ses jeunes.
Notre métier ici nécessite la souplesse. Des fois nous recevons des engins neufs, les jeunes s'y jettent et si je vois qu'il y a des speed, je désigne ceux qui vont nettoyer et les calmes rivières. Je vais encourager les jeunes de quitter la divagation inutile dans la ville, de venir nous rejoindre pour que nous développions notre milieu.
Le site de lavage Moulassa de Malepe est l'un des plus grands de la ville de Beni qui encadre environ 65 jeunes. Leur chiffre d'affaires quotidien varie entre 300 000 francs congolais et 500 000 francs congolais. Selon Alexis Moutsopi, son gérant, le projet est d'avoir dans les prochains jours des équipements professionnels pour améliorer la qualité du service. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
En plus bref, sachez que des travaux de la commission paritaire banque gouvernementale, banque syndicale de l'enseignement supérieur et universitaire se sont ouverts lundi au village Vénus de Bibois dans la commune de Lancélé. Pour la ministre de l'ESU, Marie-Thérèse Sombo, ces travaux visent à évaluer le niveau des engagements et proposer des pistes pour les engagements encore non pris. Elle a salué la volonté ferme de tous les partenaires de son secteur à ces échanges pour aboutir à des conditions sociales adaptées au bon travail. Les travaux lancés regroupent plus de 200 participants. D'autre part, nous apprenons qu'au Nord Kivu, d'importantes quantités de produits prohibés ont été détruites par incinération lundi par les services techniques à la frontière de Kassindi, territoire de Beni. Selon plusieurs sources à ce poste frontalier, environ 2 tonnes de boissons alcoolisées et sucrées, des emballages plastiques ainsi qu'une gamme de bières ont été saisies par les agents de l'administration publique œuvrant au sein de la brigade douanière de Kassindi. Selon ses sources, ces produits, pourtant frappés d'interdiction par le ministère du Commerce, étaient destinés à entrer frauduleusement au Congo.
Actualité internationale.
Au moins 81 personnes ont été tuées et d'autres sont portées disparues après une attaque dans le nord-est du Nigeria, ont affirmé mardi 3 septembre à l'agence France-Presse des autorités locales en accusant le groupe djihadiste Boko Haram. Selon la police de l'état de Yobe, environ 150 personnes présumées appartenant à Boko Haram ont attaqué à moto dimanche 1er septembre vers 16h le village de Mafa, muni d'armes à feu et de grenades.
L'invité.
À Beni, le général Alfred Matambo, commandant de la brigade d'intervention de la force FIB de la MONUSCO, arrive au terme de son mandat. Le général Malawit parle d'un bilan plutôt moyen à la tête de cette force des Nations Unies chargée de combattre les EDF dans la région de Beni. Parmi les défis rencontrés par la FIB figure l'expansion de cette rébellion vers d'autres territoires, la désinformation persistante concernant la MONUSCO ainsi que d'autres obstacles qui compliquent l'accomplissement de la mission des casques bleus. Le général Matambo revient sur ces points dans cet entretien avec Sadiki Aboubakar. Suivez.
Général Alfred Luciano Matamba, bonjour. Quel est le bilan de votre mandat d'une année à la tête de la FIB?
Pour parler du bilan de la FIB depuis que j'ai pris mon commandement, pouvons dire que s'il s'agit effectivement d'un bilan mixte qui est composé donc de succès et aussi de beaucoup de challenges au vu de l'environnement. Nous commencerons déjà par indiquer, par exemple, dans le cadre de la FIB, quand j'ai pris le commandement, nous avons opéré dans l'Outuri, notamment dans la zone de Fataki avec l'opération Spiderweb 1, donc qui a été vraiment un succès. Et nous avons aussi eu à répondre à toutes les alertes qui ont concerné donc les menaces envers les populations civiles et autres, et aussi le soutien apporté donc à nos partenaires, les forces de sécurité locales.
En termes clairs, mon général, combien d'opérations aviez-vous menées durant cette période?
Globalement, la FIB, au cours donc de mon année de mandat, on a opéré au minimum 15 opérations majeures, c'est-à-dire de grande envergure, où nous, les troupes de la FIB opèrent avec les partenaires locaux. En plus des opérations de routine, où la réponse à des alertes, par exemple dans le cadre de l'opération Spiderweb 1, vers la zone de Fataki, la FIB est intervenue dans cette zone suite à des attaques qui étaient menées dans les camps de déplacés par les miliciens Codeco. Également, la FIB est intervenue dans le cadre de Springbok, donc nos troupes ont été déployés vers Kanyabayonga, où ils ont aidé à ouvrir des couloirs humanitaires. Par rapport à Kanyabayonga, il faut noter que jusqu'à aujourd'hui, bien que Kanyabayonga soit sous contrôle du M23, la MONUSCO demeure toujours là-bas avec les forces de la FIB qui sont présentes. Cela a un intérêt purement stratégique parce que cela demeure encore sous emprise gouvernementale, puisque nous avons cet accord avec l'État congolais pour donc rester dans cette zone, rassurer la population, sécuriser cette population et pouvoir mener donc notre mandat.
Cette force, la FIB donc, avait été instituée pour combattre les ADF. Mais aujourd'hui, cette rébellion migre progressivement vers le territoire de Lubero et en Ituri, avec tendance même de se diriger dans la Tchopo. Est-ce que cela ne complique pas la tâche à la FIB?
En effet, il faudrait reconnaître qu'effectivement que cette expansion du groupe EDF, donc plus au sud, notamment dans la zone de Lubero et également au nord, donc rend la tâche plus compliquée à la FIB qui était initialement localisée au niveau du territoire de Beni. Cependant, la réaction au niveau de la haute hiérarchie de la MONUSCO, c'est donc d'étendre aussi la zone de responsabilité de la FIB. Donc dorénavant, et notamment c'est sûr à quoi nous nous employons, donc à être opérationnel dans les jours, dans les semaines à venir, pour que la FIB puisse maintenant opérer de manière plus excentrée de Beni, notamment plus vers le territoire de Lubero et également au nord, vers la zone de Mombasa jusqu'à Komanda. Donc cela aura pour une conséquence, effectivement, d'élargir, d'étendre nos forces sur toute cette zone. C'est le prix à payer pour pouvoir répondre à cette menace des groupes armés.
Après votre mandat à la tête de la FIB, quel est votre plus grand regret, mon général?
C'est de ne pas pouvoir faire plus que ce que nous avons déjà mentionné que nous avons fait. C'est vrai, certes, il y a eu certains succès qui sont notables, mais nous aurons aimé que nous puissions aller au-delà de ces seuls points. Notamment, en fait, l'environnement qui n'est pas assez permissif pour nous permettre, en fait, de pouvoir mener les opérations telles que cela devrait être, en collaboration, bien sûr, avec les forces partenaires, les FRDC et la PNC. Un autre aspect aussi qui a aussi joué en notre défaveur, c'est la désinformation à laquelle fait face souvent la MONUSCO. de manière générale. Et cela rend donc l'environnement très peu permissif, surtout vis-à-vis des populations locales qui ne perçoivent pas des fois d'un bon œil le déploiement donc des forces de la mission pour remplir son mandat de protection des civils.
Comment évaluez-vous l'apport de vos partenaires de FARDC dans le cadre des opérations que vous aviez menées durant cette période?
Il faudrait peut-être bien de souligner que nous n'aurons pas pu atteindre nos résultats que j'ai mentionnés tantôt sans la collaboration de nos partenaires FARDC. Et la collaboration a été vraiment parfaite, que ce soit avec les FARDC ou avec la PNC lors de nos différentes opérations conjointes. Cependant, peut-être le seul point, c'est la collaboration qui est faite à travers les FARDC qui est un peu plus limitée avec les UPDF, donc l'armée ougandaise, qui opère aussi avec notre partenaire FARDC. Donc nous aurions aimé que ce partenariat soit plus conséquent pour nous permettre d'être plus efficaces, toutes ces forces d'être efficaces dans notre zone de responsabilité.
Pour terminer, quel est votre message aux populations du Nord Kivu, mais aussi de l'Ituri, où est étendue la zone de responsabilité de la FAIB actuellement?
Mon dernier message à l'endroit de la population, c'est vraiment un message de travailler ensemble, main dans la main. Parce que tant que nous travaillons pour le même objectif, qui est de ramener la paix, qui est de même l'objectif global, final, nous devons mettre nos ressources en commun pour pouvoir atteindre cet objectif.
Général Alfred Luciano Matambo, merci.
Merci beaucoup. Thank you so much.
Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci à Pelé Kipela Mondo, à Junior Kamunga et à Billy Landry Beto.